France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les armes se sont tues à Gaza. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à 11h ce matin. Les Gazaouis stupéfaits.
Je n'arrive toujours pas à croire qu'un cessez-le-feu puisse enfin avoir lieu. Si Dieu le veut, il va durer. Nous avons tellement d'espoir.
Et d'autres témoignages à venir quand le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme lui que 20 des otages israéliens détenus à Gaza sont vivants. Il espère célébrer leur libération d'ici lundi soir. Explication dans quelques minutes. À suivre encore la nomination en France d'un Premier ministre, Sébastien Lecornu, piste numéro 1 pour Emmanuel Macron. Il ferait donc son retour 4 jours après sa démission. Les chefs des partis politiques reçus cet après-midi par le chef de l'État. Le prix Nobel de la paix remis ce matin à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. Elle vit dans la clandestinité. Un drone pour secourir des grimpeurs dans les Pyrénées. Une première pour la police. Un champion alsacien d'athlétisme de 90 ans après une vie à fumer comme un pompier. Et puis quand Gims reprend, Alain Souchon rencontre de deux poids lourds de la chanson française. À partir de 13h30, l'une de nos grandes comédienne est avec nous, Catherine Yégel, 60 ans de carrière au cinéma et au théâtre. Elle est éblouissante en ce moment dans la pièce La Séparation. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Quand les lieux que l'on aime sont menacés par le réchauffement climatique, on appelle ça la solastalgie. Virginie Troussier nous parle de la station de l'Alpe du Grand Serre. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La romancière Vanessa Schneider demande Bob Marley à Frédéric Pommier.
C'était une époque où mes parents étaient très engagés politiquement et donc les paroles de Bob Marley, elles résonnaient comme ça, c'était des paroles qui réunissaient un peu toutes ces luttes qu'on appelait à l'époque les luttes tiers-mondistes.
Et vous avez reconnu Get Up Stand Up, voilà vous avez le programme, merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
La vie politique française transformée en champ de course et les députés en bookmakers réduits à faire des paris sur la nomination du prochain Premier ministre. Le président de la République a promis de donner un nom ce soir. En attendant, il va recevoir les chefs de parti à l'Élysée. Ce sera à 14h30. La situation est tellement confuse qu'à ce stade, Emmanuel Macron est très tenté de renommer Sébastien Lecornu, aussi incroyable que cela puisse paraître. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
L'homme qui expliquait avant-hier soir que sa mission était terminée, cet homme-là resterait à Matignon.
Oui, il a voulu jouer l'humilité, la sobriété, tourner la page sans rien laisser paraître, revendiquer même ce détachement. Et ça a marché. S'enthousiasme l'un des siens, il est apparu simple, honnête, devant 7 millions de téléspectateurs. Alors, est-ce le nom de Sébastien Lecornu que va lancer Emmanuel Macron cet après-midi devant les chefs de parti? Ce n'est pas la tradition, fait remarquer un stratège. Il ne va pas tester son casting. L'Élysée parle d'un moment de responsabilité collective. Autrement dit, êtes-vous d'accord sur le fond, je nommerai ensuite le Premier ministre avec ce contrat pour mission, alors qu'il est l'hypothèse Jean-Louis Borloo est écartée, celle de Bernard Cazeneuve aussi. Un ministre démissionnaire parle ce matin de Sébastien Lecornu comme du choix par défaut.
Lecornu, le retour, il va quand même falloir l'expliquer aux Français. Les arguments sont prêts, Maxence ?
Ils s'affinent. Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu ont beaucoup échangé ces dernières heures. Ce serait le choix de la stabilité. L'homme qui a déjà passé des semaines à négocier, qui ne s'est fâché qu'avec Bruno Retailleau, qui ne veut pas de présidentiable dans son gouvernement. Le choix de l'urgence aussi, pas de temps à perdre. Le budget doit être adopté lundi en Conseil des ministres et il a tout en tête. C'est le choix de la raison, mais pas de l'opinion. Résume un député, comment voulez-vous le justifier? La ministre démissionnaire de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, expliquait déjà ce matin sur France Info que ce serait sans elle s'il était reconduit.
Il faut que ce Premier ministre soit en rupture avec les gouvernements précédents, qui n'est pas du camp macroniste, qui est au-dessus de la mêlée, qui est capable de parler à la droite et à la gauche.
Ça chauffe donc déjà au sein du bloc central. Tir de barrage contre cette nomination. La machine peut encore s'enrayer.
Alors tout cela, Emmanuel Macron va l'expliquer donc en début d'après-midi aux responsables politiques qu'il a conviés à l'Élysée, mais pas à Marine Le Pen ou encore à Jean-Luc Mélenchon, qui eux n'ont pas été invités puisqu'ils avaient décliné les dernières invitations à Matignon. Et le leader insoumis a d'ailleurs remis la pression ce matin.
Pourquoi sauverions-nous Emmanuel Macron, le soldat perdu dans ses aberrations et le naufrage de son mandat? Pourquoi renoncer à revenir aux urnes? Ce choix de la présidentielle anticipée, ce choix est bien partagé au-delà des rangs insoumis. Le peuple n'a-t-il pas rejeté Emmanuel Macron à 3 reprises Deux de ses anciens premiers ministres ne l'ont-ils pas déjà condamné ? Soit pour son acharnement à vouloir garder la main, comme l'a dit M. Attal, soit pour demander franchement sa démission, comme M. Édouard Philippe. La responsabilité du chaos n'est pas à l'Assemblée, elle est à l'Élysée. C'est ainsi.
Jean-Luc Mélenchon avec Laurence Perron, la gauche hors insoumis qui accorde ses violons avant la réunion cet après-midi à l'Élysée. Ses leaders sont en train de se parler. Si on fait les comptes, Maxence Lambrecq, quel que soit le Premier ministre d'ailleurs, les Insoumis et le RN sont déjà sûrs de censurer le prochain gouvernement, ils l'ont dit. Donc, Emmanuel Macron doit décrocher la neutralité des socialistes. Avec quelles mesures ? On a parlé de la taxe des hauts patrimoines, suspension de la réforme des retraites, abandon du 49-3, est-ce qu'on sait ce qu'il peut y avoir dans la corbeille ?
Alors, pour l'instant, les gains politiques semblent éparpillés. Jamais Sébastien Lecornu n'a dit aux socialistes « voilà vos victoires ». Il pourrait y en avoir 5. Une nouvelle trajectoire, 4,8, 4,9% de déficit, potentiellement 10 milliards d'économies en moins, pas de réforme de l'assurance chômage, pas de 49-3, une remise à plat de la réforme des retraites et un geste fiscal, une sorte d'impôt sur la fortune improductive. Alors ça va suffire ou pas, c'est loin d'être gagné. Les leaders de gauche ne réclameront pas tout à l'heure à l'Élysée quelques concessions, mais bien un Premier ministre de gauche. N'allez pas croire que l'hypothèse de la dissolution s'est éloignée. Son nombre plane toujours, tout ne tient qu'à une poignée de députés socialistes.
Merci Maxence Lambrecq. Ce n'est donc pas Donald Trump qui a décroché ce matin le prix Nobel de la paix. On va y venir dans un instant et parler du Venezuela. Il n'empêche que le cessez-le-feu négocié sous la pression du président américain est bien entré en vigueur. C'était il y a un peu plus de deux heures maintenant dans la bande de Gaza. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Jérôme.
Rédaction internationale de Radio France. C'est la première étape.
Oui, sans doute la plus cruciale, hein, celle dont vont découler toutes les autres. Et force est de constater avec les autorités gazaouies elles-mêmes que, oui, les soldats et blindés israéliens ont quitté la nuit dernière certaines des positions qu'ils occupaient dans l'ouest de la bande de Gaza, de Khan Younes, près de la frontière égyptienne à Gazaville, tout au nord. Il s'agit d'un retrait partiel pour se repositionner derrière la ligne jaune dont le tracé a été âprement négocié. Et Israël gardera le contrôle de 53% du territoire palestinien. Elle avertit que de nombreux secteurs sont encore dangereux pour la population gazaoui tentée de rentrer chez elle.
Et tout cela est suivi heure par heure, Camille, sur le terrain, par les Américains.
Des Américains qui vont déployer 200 soldats pour superviser la mise en œuvre du cessez-le-feu dans une force de stabilisation internationale qui devrait aussi réunir des Turcs, des Qataris, des Émiratis, des Égyptiens. Donald Trump lui-même est annoncé dimanche en Égypte où l'accord de paix a été négocié. Puis à Jérusalem, lundi, il veut être là quand les 20 otages israéliens encore en vie seront libérés par le Hamas. En échange de quelques 2000 prisonniers palestiniens. Ensuite, viendra une autre phase très attendue, hein, l'entrée en masse d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. 600 camions par jour devraient pouvoir y entrer sous contrôle des Nations Unies.
Merci Camille Magnard. Ce matin, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est adressé aux Israéliens dans une adresse télé à la télévision, donc, en expliquant qu'il souhaitait pouvoir célébrer dès lundi soir un jour de joie nationale avec le retour de tous les otages encore détenus. Après des mois de bombardements, plus de bombes donc dans le ciel de Gaza depuis quelques heures, le cessez-le-feu est devenu concret et immédiatement des milliers de Gazaouis ont pris la route à pied vers le nord du territoire. Thibault Lefebvre est notre correspondant à Jérusalem.
Il y a encore ce matin beaucoup de joie à Gaza.
Je n'arrive toujours pas à croire qu'un cessez-le-feu puisse enfin avoir lieu. Si Dieu le veut, il va durer. Nous avons tellement d'espoir. Même maintenant, c'est encore incroyable.
Mais aussi plus d'inquiétude qu'hier. Afnan vit sous une tente à Deir el-Bala, c'est au centre de l'enclave. Et comme près d'un million de Palestiniens, elle a été déplacée du nord de Gaza ces dernières semaines.
Bien sûr qu'il y a des craintes. Notre plus grande peur, c'est qu'ils rompent l'accord. Qu'après avoir repris leurs otages, ils nous disent simplement au revoir et continuent comme avant. C'est ce que nous craignons sincèrement.
C'est ce qui s'était passé en mars dernier quand les Israéliens ont rompu unilatéralement la dernière trêve. Pour un autre déplacé, il s'appelle Mohamed. Il n'y a aucune raison que l'histoire ne se répète pas.
D'abord, il ne faut jamais faire confiance à l'ennemi et se méfier de sa ruse. J'ai très peur qu'il ne viole l'accord et le cessez-le-feu. Nous l'avons déjà vu. La dernière fois, ils ont récupéré quelques otages, ils ont brisé la trêve et repris la guerre.
Mohamed, lui, n'exprime au micro de la journaliste Ferial Abdou aucun signe de joie. Sa maison est en ruine, ses enfants en mauvaise santé et il est épuisé.
Thibault Lefèvre à Jérusalem pour Inter. Le comité Nobel, lui, a préféré mettre la loupe sur une autre région du monde, mais tout en saluant une alliée de Donald Trump, la vénézuélienne Maria Corina Machado, opposante principale à Nicolas Maduro et qui le paye cher. Elle vit toujours dans son pays, mais dans la clandestinité. Prix Nobel de la paix 2025. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour.
Elle est honorée pour son combat pour la démocratie dans son pays.
Exactement. Et c'est depuis un endroit inconnu que Maria Corina Machado a réagi tout à l'heure dans une vidéo envoyée à l'AFP par son équipe de presse. Je suis sous choc, a-t-elle déclaré. Je n'arrive pas à y croire. Et l'homme que vous entendez, c'est l'opposant Edmundo González Urrutia, ancien candidat à la présidentielle qu'elle a soutenu, qui lui est réfugié à Madrid et qui lui répond à distance depuis son exil. Nous sommes sous le choc, mais de joie. Maria Corina Machado, 58 ans aujourd'hui, est appelée la libératrice par ses partisans. Lors de la dernière élection présidentielle vénézuélienne en 2024, elle est devenue le visage de la contestation, rejoignant par exemple des points de ralliement à moto pour haranguer les foules. Arrêtée une première fois, elle vit depuis dans la clandestinité. Alors le comité du Nobel de la paix a détaillé tout à l'heure les raisons de son choix.
Elle reçoit le prix Nobel de la paix pour son travail infatigable pour promouvoir les droits démocratiques du peuple vénézuélien. Quand des autoritaires prennent le pouvoir, il est crucial de reconnaître les courageux défenseurs de la liberté qui se lèvent et résistent.
Et selon le président du comité, ouvrez les guillemets, Maria Corina Machado est l'un des exemples les plus extraordinaires de courage civique en Amérique latine ces derniers temps. Elle qui a toujours refusé de quitter le pays.
Virginie Pironon, la paix qui n'a jamais semblé aussi éloignée. En Ukraine, Kiev et 9 régions du pays sont affectées par des coupures d'électricité, conséquence d'une nouvelle attaque russe la nuit dernière contre des installations énergétiques avec des centaines de drones et des dizaines de missiles lancés. Un enfant de 7 ans a d'ailleurs été tué. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes en direct de Moscou. Sylvain, ces attaques russes sont de plus en plus massives.
Oui, 450 drones, 30 missiles la nuit dernière, ça n'est pas un record. Hein. La Russie avait notamment lancé plus de 800 drones le 6 septembre dernier, mais ce raid vient confirmer l'intensification des frappes russes à l'approche de l'hiver. Après un mois de septembre déjà record en la matière et un été particulièrement chargé, d'après l'armée ukrainienne, la Russie a lancé plus de 5600 drones le mois dernier, pas loin de 200 missiles, un rythme effréné qui confirme en fait que son industrie de défense a su s'adapter aux sanctions. Les drones iraniens de conception importés à l'origine sont désormais pour une grande partie au moins fabriqués en Russie. Quant aux missiles, dont la technologie est nettement plus complexe, il semble que l'industrie militaire arrive toujours à se procurer leurs composants. Alors que l'Ukraine envoie chaque nuit quelques dizaines de drones visant notamment les raffineries russes, ce qui crée quelques tensions, Moscou réplique en envoyant les drones par centaines. L'objectif semble être le même qu'à l'automne dernier, fragiliser le système énergétique ukrainien, officiellement parce qu'il est un maillon de l'effort de guerre, mais aussi certainement pour tenter d'atteindre le moral d'une population usée par 3 ans et demi de guerre, fragiliser le gouvernement ukrainien en gardant bien en tête qu'un changement de régime à Kiev est un objectif majeur de Moscou dans cette guerre.
Sylvain Tronchet en Russie pour Inter.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Et pendant que les négociations s'éternisent entre l'Élysée et Matignon, sur le terrain, les problèmes, eux, n'ont pas disparu. Pour beaucoup de maires, c'est, par exemple, la lutte contre le trafic de drogue et ses tentacules, quitte à en payer le prix physiquement, ce qui est arrivé mercredi soir au maire de Sarcelles, dans le département du Val-d'Oise. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Caillassé en se rendant à une réunion publique.
Réunion hebdomadaire dans le quartier des Chardonnerettes, plutôt résidentiel, mais où il y a depuis 25 ans un point de deal important que les policiers ne parviennent pas à neutraliser durablement. La tension a grimpé d'un cran avant-hier avec ce qui s'apparente à un guet-apens parce que nous refusons de nous laisser infiltrés, justifie Patrick Haddad, le maire socialiste de Sarcelles.
Ce sont des gens qui demandent des postes à la mairie, demandent de diriger la maison de quartier du coin, qui intriguent aussi à la mosquée locale, et la communauté musulmane résiste bien parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec eux, mais qui essayent aussi de détendre leur sphère d'influence. Et comme nous, on dit non à leurs sollicitations et à la pression qu'ils essayent de nous mettre, eh bien, ils en sont arrivés jusque-là.
Nous avons mis de l'ordre, cessé le contact avec des gens troubles, ajoute le maire. Du coup, ce groupe intimide, intrusion dans l'école d'abord, gaz lacrymogène dans la maison de quartier, quartier tag hostile et désormais la menace physique. La République doit gagner, insiste Patrick Haddad, pour qui la construction promise d'un commissariat avec police municipale et nationale doit être débloquée.
On ne peut pas avoir des discours nationaux, martiaux, contre le narcotrafic et ne pas donner les moyens élémentaires sur lesquels des accords ont été contractualisés avec un engagement financier de l'État et considérer qu'il y a d'autres priorités, que tout ça n'est pas très grave et qu'on nous laisse nous débrouiller avec les moyens du bord.
Et l'absence actuelle de gouvernement n'arrange rien.
Béatrice Duguay pour ses précisions. En Guadeloupe, la vigilance est maximale autour de la tempête tropicale Jerry. Il est en vigilance rouge, les écoles fermées, les fortes pluies devraient perdurer jusqu'en milieu de matinée, heure de Pointe-à-Pitre, en fin de journée, heure de métropole. On a parlé de l'utilisation il y a quelques instants, utilisation militaire des drones en ce moment en Ukraine, mais les utilisations civiles sont aussi de plus en plus courantes. Ainsi, dans les Pyrénées, en début de semaine, cirque de Gavarnie, les CAS ont pu porter secours à deux grimpeurs en difficulté. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Grâce à un drone.
Oui, la nuit tombe quand les alpinistes appellent la CRS Montagne du major Sébastien Abadi, bloqué mais pas blessé.
Il n'y a pas d'urgence vitale, donc employer l'hélicoptère de nuit, c'est toujours risqué. Le télépilote drone a proposé d'accrocher au bout d'une ficelle des ponchos de survie pour qu'ils puissent passer la nuit dans de meilleures conditions.
Des ponchos de survie à 2200 mètres d'altitude par 0 degré dans un baudrier pendu à la paroi, presque une bonne nuit, sourit le plus expérimenté des grimpeurs Cyril Espuga.
Ah, une nuit formidable.
Dans le plus beau des hôtels, 1000 étoiles.
Pourtant, au début, ce moniteur de ski et de canyoning n'y a pas cru.
J'ai cru que c'était une blague. Parce qu'il ne m'a pas dit avec le drone. Au début, il m'a dit, on montera et on va te porter des trucs. Je lui ai dit, mais avec quoi tu vas m'amener des trucs? Il y a un passage secret. Donne-le-moi que je puisse redescendre. Et en fait, non. Lui, c'est un spécialiste du drone et il avait envie de faire un essai. C'est un essai concluant quand même.
Le drone et sa caméra infrarouge qui étaient déjà utilisés pour des missions de recherche, mais c'est bien la première fois que les CRS l'utilisent pour une opération de secours.
Voilà enfin une bonne utilisation du drone. Plutôt que des drones espions pour savoir ce que fait son voisin ou tuer des innocents. Ça, c'est super.
Les deux hommes de 52 et 21 ans ont finalement pu être élitreuillés deux jours le lendemain matin.
Il n'y avait pas de passage secret.
Non, il n'y en avait
merci
pas.
Merci Simon Le Baron. Gisèle Pellicot ne voulait plus remettre les pieds dans un tribunal. Ce sera le cas. Le seul de ces violeurs à avoir fait appel et qui a été condamné hier en appel à 10 ans de prison accepte sa condamnation, dit son avocat ce matin. Pas de pourvoi en cassation pour lui. C'est l'heure des élections, pas pour les députés, mais dans les écoles pour élire les représentants. De parents d'élèves, ces élections se tiennent aujourd'hui et demain. Et particularité cette année, de plus en plus d'établissements ont recours au vote électronique. Exemple, dans un lycée à Angers. Sonia Princé.
Avec un corps électoral d'environ 2500 par an, le lycée David d'Angers devait chaque année mettre sous pli les bulletins dans 2500 enveloppes qu'il fallait distribuer puis récupérer avant le dépouillement. Cette année, l'établissement a opté pour le vote électronique. Florence Prudhomme, secrétaire générale de la FCPE et représentante des parents d'élèves dans ce lycée.
C'était une demande des parents, c'était un souhait déjà depuis l'année dernière parce que c'est très clairement pratique, c'est sécurisé. On espère surtout que ça va faire augmenter le taux de participation. L'important, c'est qu'on puisse avoir la plus grande représentativité. Et en tout cas, on l'espère.
L'an dernier, un parent sur trois avait participé au collège, un sur cinq au lycée. Ces chiffres, proches de la moyenne nationale, devraient augmenter cette année puisqu'il suffit désormais d'un simple clic pour voter, explique Sylvain Nalepa, le proviseur de la cité scolaire David d'Angers à Angers.
Les parents qui ont l'habitude d'ouvrir Pronote pour suivre l'évolution scolaire de leurs enfants, ils ouvrent ce logiciel et tombent sur un panneau d'accueil et rapidement, sous 10 secondes, le vote est enregistré. Après, moi, de mon côté, j'ai dû mettre en place numériquement les listes de candidats, les paramétrages des calendriers, mais ça se fait assez facilement.
Le dépouillement sera instantané, les résultats seront connus demain matin.
Voilà, n'oubliez pas de voter. Sonia Princé, la mortalité routière a fortement augmenté cet été, plus 16% entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre. 970 morts sur les routes, c'est 139 de plus que l'an dernier. C'est un baromètre qui nous renseigne sur l'état de la faune sur la planète. L'Union internationale de la conservation de la nature publie sa liste rouge actualisée des espèces menacées. Certaines entrent dans la catégorie en danger ou menacées, c'est le cas des phoques, mais d'autres en sortent aussi, comme les tortues vertes. Explication Célia Kiré.
Jusqu'ici, les phoques étaient relativement épargnés, mais ce n'est plus le cas. Trois espèces de phoques sont considérées comme en danger ou quasi menacées. L'Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste de la planète. Sébastien Moncor est le directeur du comité français de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature.
Ce constat concerne aussi d'autres espèces de mammifères marins, comme l'ours blanc, hein, qui est déjà classé dans une catégorie menacée. Et le constat est le même, en fait, c'est que ces espèces dépendent de la banquise, donc de larges étendues de glace, pour se reproduire, pour l'élevage de leurs petits, pour leur zone d'alimentation, et que la réduction de la superficie des glaces compromet leur viabilité.
La banquise devient dure à vivre pour les phoques. En revanche, les tortues vertes se portent mieux dans les eaux tropicales. Elles ne sont plus menacées.
C'est les gouvernements, mais aussi surtout les ONG qui sont sur le terrain, qui ont permis de mieux protéger en fait les tortues, principalement leur zone de ponte où les femelles viennent pondre. On y avait aussi beaucoup de braconnage des œufs, de collecte illégale. Et aussi, ces tortues étaient souvent capturées dans des filets de pêche.
Les efforts de protection ont donc payé. Les populations de tortues vertes ont augmenté de 28% depuis les années 70.
Célia Kiré. Il n'y a pas d'âge pour se mettre au sport. On connaît ce message relayé par les médecins qui ne cessent de nous dire que faire du sport est bon pour notre santé. Mais rien de tel que la preuve par l'exemple. Jean-Pierre Vermuth est alsacien. Il habite d'Obenzand, près de Strasbourg. Et il participe à partir d'aujourd'hui au championnat d'Europe d'athlétisme catégorie master. Il a 90 ans, et c'est d'autant plus remarquable qu'il ne s'est mis au sport que juste avant la soixantaine. Lison Bourgeois l'a rencontré.
Un chamboulement total à l'image de cette chambre d'amis complètement transformée.
On est dans ma salle de sport, voilà là, un truc pour courir, mais comme je cours toujours dans la salle de sport de Gersheim, je m'en sers plus beaucoup.
Comprenez bien, Jean-Pierre Vermuth s'entraîne deux fois par jour.
J'ai commencé à faire du sport quand j'avais 58 ans. J'étais trop gros, j'avais 86 kilos. Maintenant j'en ai 62. Je fumais deux paquets de cigarettes par jour. De temps en temps, je buvais un bon coup aussi. Donc j'ai modifié un petit peu tout ça. J'ai fait 30 marathons.
Il commence ensuite le demi-fond, 39 fois champion de France, une fois champion d'Europe et une fois vice-champion du monde.
On va aller là dans ce coin, regardez.
Au total, une cinquantaine de médailles accrochées au mur.
Ça, c'est les derniers championnats du monde que j'ai fait en Floride il y a deux mois.
Vous n'en êtes pas forcément fier.
Pour vous dire la vérité, si, quand même. Moi, je cours pour gagner. Hein. Je ne cours pas pour participer. Hein. Si on n'a pas ça, on n'est pas un vrai sportif. Hein. J'aimerais bien m'entraîner avec quelqu'un, hein, mais c'est pas possible.
Mais on peut passer le message.
Ouais, mais je veux pas courir avec un petit jeune de 50 ans.
La recherche s'annonce compliquée. Ils sont seulement deux en France à courir le 100 mètres en compétition dans la tranche 90-95 ans.
Un reportage ici Alsace. Alors un homme qui fume en quantité pendant des années peut donc changer de vie et enchaîner les marathons. C'est impressionnant. Pas totalement étonnant, nous dit Éric Gilson, directeur de recherche à l'INSERM, spécialiste du vieillissement.
Ça dépend de beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs qui sont des facteurs génétiques où certaines personnes vont être mieux prédisposées, si vous voulez, à effectivement faire des performances même en commençant à un âge avancé. Mais certaines de nos fonctions peuvent effectivement être améliorées. Beaucoup d'effets liés au vieillissement sont des effets réversibles du fait de mécanismes moléculaires qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des modifications dans nos cellules en fonction de votre style de vie, de l'entraînement que vous pouvez faire au sport ou de votre façon de manger. Donc, c'est pas a priori étonnant.
Éric Gilson au téléphone de Damien Mestre. Lui, ses performances nous ont épatés. L'été dernier, sur les routes du Tour de France, le Normand Kevin Vauclin, 7e de la dernière grande boucle, rejoint l'une des grosses écuries du peloton. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Jérôme, bonjour
à tous. Il signe chez les Britanniques d'Ineos Grenadier.
Ouais, c'est pas vraiment une surprise d'ailleurs de voir Keke de son surnom signé chez Ineos. C'était dans les tuyaux, ça bruissait même assez fort hein, sur le tour déjà cet été. Personnellement, j'en entendais parler tous les jours. Le Français a été la révélation du tour. Il a été le chouchou du public sur le bord des routes qu'il a découvert l'an dernier sur le tour 2024 avec une victoire d'étape à Bologne. C'est un coureur complet, 24 ans seulement, avec un beau potentiel. Forcément, il a teasé les convoitises. Il va faire du bien à une équipe Ineos qui vit un peu sur son passé, hein, on va pas se mentir, qui compte beaucoup sur lui. Un coureur intelligent et ambitieux. ambitieux pour Dave Brailsford, le patron historique de l'équipe cycliste britannique, qui a déjà gagné le Tour avec Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal. Kevin Vauclin, lui, se dit extrêmement fier et encore sous le choc et parle d'étapes logiques dans sa carrière.
C'est l'un des coureurs français les plus populaires qui rejoint donc les rangs d'une équipe étrangère et qui quitte les rangs de l'équipe française Arkea, qui va disparaître. C'est fini, Xavier ?
C'est pas encore officiel, même si la date fatidique est passée, mais le départ de la figure de proue de l'équipe de Manu Hubert signe un peu le glas du projet. Hein. Déjà, le patron d'Arkea B&B Hotel espérait un miracle, mais la saison touche à sa fin et Manu Hubert n'a pas réussi son pari, celui de remplacer les deux principaux partenaires de son équipe. Le contexte économique est très compliqué, 150 personnes vont se retrouver sur le carreau et la signature de Kevin Vauclin chez Ineos, c'est un peu le début de la fin.
Merci Xavier Monferrand. Quand l'artiste francophone le plus écouté par mois sur Spotify, plus de 18 millions d'auditeurs mensuels, rencontre une légende de la chanson française. Je parle de Gims et d'Alain Souchon. Gims qui a sorti ce matin un nouveau son, très inspiré par son aîné. Bonjour Mathieu Culeron.
Bonjour.
Clin d'œil à la chanson Full Sentimental.
Oui, Gims qui rend hommage à un monument de la musique, un pilier de la chanson française, l'ancien rappeur de Section d'Assaut, qui utilise Full Sentimental de façon hybride entre sample et reprise. Écoutez.
Je suis trop sentimental.
Voilà Gims qui reprend un peu de musique et un peu du texte d'Alain Souchon, mais qui refait ça à sa sauce. Ce n'est ni une première ni une nouveauté, mais presque une tradition dans le rap. Avant lui, par exemple, son ennemi juré Booba a multiplié les clins d'œil à la chanson française, notamment dans ce titre.
Venu extraire Excalibur de son oncle, mon 6-45, je suis le pitchum avec une plume. Tout
voilà, Pitbull, un extrait de l'album West Side de Booba avec un sample de Mistral gagnant de Renault. Mm-hmm. Là, on parle de sample, mais Gims, lui, va plus loin puisqu'il réutilise une partie du titre et du texte. Mais là encore, il y a des précédents entre un rappeur et Alain Souchon.
Quand je serai KO, tombé lors d'un rodéo.
Voilà, quand je serai KO, un titre de 2017 de This is la peste. Là encore, comme Gims, la reprise d'un titre de Souchon, la chanson française qui décidément est une source inépuisable d'inspiration pour le rap tricolore et pour Gims en particulier.
Merci Mathieu Culeron. Sentimental, c'est donc le son livré par Gims aujourd'hui, qui sera en concert à la U Arena de Nanterre les 19 et 20 décembre prochains. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Callac. Puis à 13h30, la comédienne, metteuse en scène également, Catherine Yégel. Avec nous, elle est sur la scène des Bouffes Parisiens en ce moment, à Paris, dans la pièce La Séparation. 01 45 24 7000 pour dialoguer avec elle dans un instant. 13h45, notre feuilleton, nous sommes à Fécamp, au marché aux poissons, où l'on trinque entre collègues le vendredi. C'est un lieu où l'on aime à se retrouver. À Fécamp, nous verrons cela. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Virginie Troussier et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Virginie, la montagne change.
Oui, dans les Alpes du Nord, une petite station de ski se bat pour sa survie. L'Alpe du Grand Serre connaîtra-t-elle encore de nouveaux hivers ?
Et avec vous, Frédéric, une écrivaine.
Elle est également journaliste, il s'agit de Vanessa Schneider. Son nouveau livre, La peau dure, vient de paraître chez Flammarion et avec elle, c'est Bob Marley que nous écouterons, un chanteur qu'on écoutait énormément chez elle quand elle était enfant.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Samedi, 14h, Lilia Hassem.
Ce samedi, direction l'île de la Réunion pour une émission consacrée à la créolité à l'occasion de la 7e édition du Salon du Livre Athéna à Saint-Pierre.
Etc.
Tous les samedis à 14h sur Inter.
Chez Orange, on sait que pour certains...
Un téléphone, c'est fait pour téléphoner, non ?
Mais pour d'autres...
C'est aussi un super appareil photo. D'ailleurs, c'est simple, moi j'ai plus d'appareil photo.
Alors pendant les 5 jours 5G, la série Xiaomi 15T équipée d'optique Leica est à partir d'un euro au lieu de 249€. Avec un forfait 5G engagement 24 mois en rapportant votre ancien téléphone. Et ouais, seulement à partir de 1€. Orange est là.
Offre valable en France métropolitaine jusqu'au 15 octobre 2025. Conditions en boutique et sur orange.fr. 5G avec terminal compatible dans les zones couvertes.
Et si vous mettiez de la lumière dans la vie d'un enfant, d'une femme ou d'un homme qui vit dans la nuit? En transmettant tout ou partie de vos biens à la Fédération des aveugles de France, par un legs, le don d'une assurance vie ou une donation, vous offrez aux aveugles l'espoir de voir un jour leur vie changer. Pour soutenir les aveugles de France, contactez Anna Pereira au 01 44 42 91 96 ou connectez-vous sur aveugledefrance.org. Fédération des aveugles de France. La citoyenneté, ça vous regarde.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Du soleil aujourd'hui, mais pas pour un petit tiers nord.
Oui, du nord de la Bretagne vers la Normandie, le nord de la Seine jusqu'au nord de la Lorraine, on va garder un ciel bien encombré. Sur la région parisienne, encore beaucoup de nuages. Les éclaircies devraient revenir, mais c'est un petit peu laborieux. Le ciel est nuageux aussi sur les Pyrénées. Ailleurs, le soleil s'impose. Alors, seules quelques grisailles vont résister vers le Val-de-Saône et vers l'Ain. En Méditerranée, du soleil, du Mistral jusqu'à 50 km à l'heure. Et encore quelques averses pour la Corse avec un vent de nord-est. Les températures sont plutôt agréables, avec 16 à 21 degrés sur la moitié nord, jusqu'au massif central et aux Alpes, 19 à 22 pour le sud-ouest. Il fait plus chaud en Méditerranée, avec 24 à 26 degrés cet après-midi. Et puis pour le week-end, ça s'annonce ensoleillé, après dissipation des grisailles matinales. Les nuages resteront quand même un petit peu plus nombreux au nord de la Seine.
Elodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Catherine Yégel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes une figure du théâtre français, une comédienne que tous les metteurs en scène rêvent d'avoir dans leurs pièces, et metteuses en scène aussi. Et je ne parle pas des auteurs et des autrices, nous y viendrons dans quelques minutes. Vous êtes sur scène en ce moment, Théâtre des Bouffes Parisiens dans La Séparation, pièce de Claude Simon, prix Nobel de littérature 1985, une pièce qui n'avait été donnée qu'une seule fois, 1963. L'accueil n'avait pas été très enthousiaste à l'époque. Cette fois, la mise en scène 2025 est signée Alain Françon. Et là, la critique est tout autre. Très élogieuse. 01 45 24 7000 pour tous ceux qui veulent nous rejoindre pour parler théâtre, comédie, culture au sens large avec vous. Catherine Yégel, profitez-en. Vous passez également, vous qui nous écoutez, par l'application Radio France. Vous avez commencé, je crois, Catherine Yégel, sur la scène du théâtre.
Des Bouffes Parisiens.
Des Bouffes Parisiens.
Il y a 60 ans.
Vous y rejouez aujourd'hui? Quelle impression ça vous fait? Qu'est-ce que vous êtes dit?
J'avais peur.
Peur?
D'y retourner. Je me suis dit que c'était un signe et que le fait de rentrer dans ce théâtre allait annoncer ma mort. Je ne suis pas superstitieuse pour un rond, moi. C'est ça qui est bien. Non, je ne sais pas. J'avais peur d'y retourner. Je n'y avais pas remis les pieds. Et pourtant, j'y avais joué 666 fois Fleur de Cactus.
Mais pas remis les pieds, ni sur scène.
Non, parce que maintenant, je pense que la programmation de Jean-Robert Charrier est plus intéressante. Mais longtemps, ça a été un peu, comment on pourrait dire poliment, mon postérieur sur la commode.
Bon.
Ça a été longtemps, ça.
60 ans de carrière et on peut encore avoir peur.
Bah, on a de plus en plus peur, même parce qu'on connaît encore plus la difficulté. Il n'y a pas d'inconscience à mon âge, quand même.
C'est-à-dire que vous avez plus de précautions avant de monter sur scène? Vous avez plus d'inquiétude?
C'est pas ça, c'est que je mesure très bien, et peut-être sûrement mieux qu'à 18 ans, tout ce que j'ai à accomplir et à faire. Et je sais que les portes sont étroites, et je sais que ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail, et particulièrement ce rôle d'ailleurs.
Qu'est-ce que ça fait de jouer une pièce qui n'a pas été jouée ou quasiment pas une seule fois? Ça donne une plus grande liberté? Il y a moins de références?
Oh, ça, je crois pas que ce soit un moteur, en tout cas ni pour Alain Françon ni pour moi. Non, non, c'est parce que je trouve ce texte passionnant et parce que je trouve le rôle absolument superbe. J'adore tous les rôles qui ont des failles et des défauts, et c'est bien le cas de celle que j'interprète. Donc, oh, j'avais pas vu qu'on se voit. Quelle horreur!
Oui, vous êtes aussi, il y a votre image sur l'écran qui est juste devant vous. Et alors, votre image ne vous plaît pas?
Je déteste me voir. Ah. Et en plus, là, la grande difficulté que j'ai à surmonter dans La Séparation, c'est que je suis face à un miroir. Quasiment tout le temps.
Vous n'avez pas vous regarder dans un miroir?
Non, je déteste.
Jamais?
Non.
Mais vous avez accepté qu'il y a un miroir
Je suis bien obligé, c'est le lieu.
C'est le lieu, c'est le texte.
je peux pas faire autrement.
C'est un cabinet de toilette. Ce sont deux cabinets de toilette.
Voilà, mais c'est ça qui est, je trouve, la proposition de Claude Simon.
J'en dis un mot, Catherine Nigel. Le plateau est divisé en deux, il y a deux cabinets de toilette qui sont symétriques, deux couples qui vivent sous un même toit. D'un côté, un couple de jeunes, votre fils et votre belle-fille, la trentaine. Ils vont se séparer. Et puis de l'autre, il y a un vieux couple, le vôtre, avec votre personnage, qui est d'une jalousie extrême, à tort ou à raison d'ailleurs. Vous passez finalement votre temps à sortir les dossiers et vous y allez franco.
Oui, surtout que elle est un petit peu libérée par l'alcool à la fin, si j'ose dire. Mais je pense qu'elle lui fait vivre un enfer, parce que Il l'a trompée dès le premier jour et elle ne l'a jamais acceptée. Peut-être qu'elle, je ne sais pas si une femme mérite d'être trompée ou non. J'en sais rien. Mais en tout cas, elle, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne l'a pas trompée.
Pourquoi elle mériterait d'être trompée ?
Parce qu'elle est probablement assez épuisante à vivre. J'imagine. Et lui, il se réfugie beaucoup plus dans son travail. C'est un professeur, enfin à la retraite là, mais d'université. Donc, il a beaucoup fréquenté les étudiantes et des choses comme ça, quoi. Et je suppose que sa femme, qui est très envahissante, très bavarde, très jalouse, très possessive, est assez épuisante à vivre. J'imagine.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage à la dérive ?
Ben justement, c'est ces dérives qui m'ont plu, c'est ces failles qui m'ont plu. Moi, je trouve que c'est le plus intéressant à interpréter au théâtre. Les héroïnes m'ennuient horriblement. Je trouve que ce sont ces défauts et ces failles qui la rendent, à mon sens, à un moment donné, touchante et belle.
Il y a quand même de la tendresse encore entre eux.
Oui.
Il y a quand même encore de la complicité, on peut aller
jusque-là. Complicité, je dirais pas, mais une espèce de tendresse de vieux couple. C'est un peu comme dans Le Chat, quoi. Vous savez, avec Gabin, Signoret. Il y a un peu de ça aussi. Ces couples qui se connaissent tellement, mais qui se supportent. Mais il y a une tendresse, oui, je crois. Elle est, bon, pas facile à... Mais à un moment donné, il y a un moment où je lui enlève ses chaussures et on sent qu'il y a ce quotidien du couple, ces petites attentions.
C'est pas forcément mieux chez les jeunes, chez le jeune couple.
Non, c'est
puisqu'on
pas plus
a
gay,
ces
non.
deux couples sous les yeux, on se dit que finalement, ce vieux couple un peu à la dérive, il y a encore des liens entre eux. Chez les jeunes, c'est pas forcément le cas.
Non plus, mais je pense que c'est une vision assez pessimiste en général de la part de Claude Simon sur le couple, sur l'amour, sur la vie en commun, je pense, je crois. Je ne l'ai pas bien connu, hein, Claude Simon. Pardon.
C'est aussi votre regard sur le couple aujourd'hui, Catherine Yégel ?
Oh, j'ai plus de regard, moi. Oh non, je suis en jachère. Non, je n'ai pas de regard, mais je n'ai pas envie de faire une généralité, parce qu'il y a toutes sortes de couples, mais je pense que... en tout cas, la vision de Claude Simon, même à travers son œuvre, on ne sent pas du tout que c'est un romantique, je ne crois pas.
Je vous parle de la question du couple, puisque hier soir, c'était la première édition des prix MeToo Média, qui récompense ceux qui contribuent à briser le silence sur les violences sexistes et sexuelles. C'est la comédienne Anouk Grimbert qui a été récompensée pour son livre Respect, dans lequel elle raconte les violences subies dans son enfance, le silence aussi dans le milieu du cinéma. Est-ce que vous diriez que de ce point de vue-là, les choses progressent ?
Bah, ça me paraît évident. Ça me paraît évident, il était temps, mais ça me paraît évident. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui existe beaucoup au théâtre. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais tellement vu autour de moi, et moi personnellement, des comportements déplacés d'acteurs ou de metteurs en scène. Je ne crois pas. Parce que pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on est tous en scène au même moment. Et ça rebat les cartes de la sexualité de la victime et du bourreau. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de sexe en scène, si j'ose dire. Puisque quand on commence une représentation, voilà, on fait un voyage en direct ensemble, qui est assez difficile. Je pense que ça existe plus dans le milieu du cinéma, parce que les rapports de force sont différents.
Il y a un an et demi, vous aviez frappé l'opinion quand vous aviez publié une photo de vous dans un texte.
Ah oui, mais ça, c'est autre chose.
Absolument. Dans lequel vous accusiez votre ex-mari, Richard Berry, de violence conjugale.
Oui.
Alors, vous étiez enceinte de votre fille, Colline. Vous avez eu beaucoup de retours après cette publication.
Oui, beaucoup.
Beaucoup de gens sont adressés à vous, beaucoup de femmes, peut-être.
Oui, mais je ne l'ai pas fait pour ça.
Pourquoi vous l'avez fait ?
Je l'ai fait pour défendre ma fille. Qui a attaqué son père. Bon, bien sûr, c'était prescrit, son père, pour attouchement quand elle était enfant. Moi, quand j'ai été battu par Richard Berry...
Qui a nié les faits que vous précisez là.
Oui, mais ça, il a tort, parce que j'ai toutes les preuves. C'était il y a des années, et je n'ai pas porté plainte, parce qu'à cette époque-là, si on allait dans un commissariat, on vous regardait comme qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça ? Enfin, il y avait... Et je ne l'ai pas fait, je l'ai quitté. C'est une autre forme de... Ce qui n'est pas facile quand on a un enfant tout petit. Mais après, j'ai pas trouvé utile d'aller remuer ça. Mais j'ai fait ça beaucoup, bien sûr au nom des femmes, mais surtout au nom de ma fille, pour continuer à la défendre et à la protéger.
La séparation, vous êtes sur scène en ce moment. Est-ce que vous recevez beaucoup de propositions, Catherine Yégel, d'auteurs ?
Mais non, justement, et comme il y a Frédéric Pommier qui est là...
C'est pour ça que je lui ai demandé de venir. Bonjour Frédéric Pommier. Rebonjour. Bonjour. On va vous écouter dans C'est une chanson, comme tous les jours, juste avant 14h. Mais vous écrivez aussi, cher Frédéric, des textes, romans, pièces de théâtre. Et Catherine Yégel a joué, il y a quelques années, dans votre pièce de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ?
La pièce s'appelle Le Prix des boîtes, et c'est une histoire qui date effectivement de plus d'une douzaine d'années. Mmh. Ce texte, j'ai réussi à l'envoyer à Catherine Yégel. Oui. Et moi, je me rappelle du coup de fil de Catherine Yégel, qui m'a appelé quand j'étais chez
moi.
Oui,
parce que je l'ai beaucoup aimé, cette pièce.
Et Catherine Yégel, vous m'avez dit à ce moment-là, je veux jouer ce texte.
Oui.
Et c'est vous qui m'avez permis ensuite de rencontrer un metteur en scène, parce que c'est Catherine Yégel qui m'a dit « Envoyez ce texte à Georges Lavelli, qui était un immense metteur en scène. » Et puis après, alors un projet de théâtre, monter une pièce, ça prend des mois, des années. Et là, en l'occurrence, ça nous a pris quand même plusieurs années. Mais
non, on a été assez vite.
Trois ans.
Trois ans.
Qu'est-ce que ça fait, Frédéric Pommier, de voir ces mots dans la bouche d'une comédienne comme Catherine Yégel ?
C'est merveilleux. Et je pense que toutes les personnes qui ont eu la chance, le privilège d'avoir un texte joué par Catherine Yégel ont dû ressentir la même chose. Quand vous écrivez un texte, vous avez l'impression de vous décrire des répliques avec des petites perles, de faire de chaque réplique une espèce de petit collier de perles. Et en fait, Catherine Yégel, elle s'empare de ces petits colliers de perles, et non seulement elle est impeccable, mais en plus elle les transforme, ces colliers de perles, et c'est comme si elle faisait avec ses répliques des bijoux différents à chaque représentation. En l'occurrence, il y a eu 20 représentations de cette pièce-là, et moi j'y étais tous les soirs. C'est l'un des moments les plus beaux de ma vie, ce mois-là au théâtre, avec Catherine Yégel, Francine Berger et 4 autres comédiens sur scène. Et c'était merveilleux parce que c'était différent tous les soirs, et parce que j'étais surpris tous les soirs, et parce que je buvais le jeu de Catherine Yégel, notamment, grâce à qui ce texte a été créé.
J'ai
au
bien
théâtre
fait de venir.
De la théâtre.
J'ai l'impression.
Franchement, je reviendrai.
Catherine Yégel, comment vous accueillez ce que vient de dire Frédéric Pommier ?
Écoutez, ça me flatte, mais ça me met un peu mal à l'aise. On a toujours l'air un peu bête quand on nous fait des compliments. Enfin, je trouve.
Mais ça veut dire que vous voudriez recevoir davantage de textes ? C'est ce que vous nous disiez il y a...
C'est pas ça, non, pas forcément, parce que j'en reçois. Hein. Et pas forcément très bon. Après, ce qui est délicat, c'est d'appeler l'auteur pour dire... Parce que moi, je les appelle. Je trouve que c'est pas bien de les laisser dans le silence. Mais c'est délicat de dire, bon, voilà, j'ai pas trop... Voilà, c'est pas pour moi. Enfin, il y a des formules. Enfin, bon. Mais mais j'en reçois. Hein. Mais de la qualité de celle de Frédéric, pas souvent.
Est-ce que les rôles qu'on vous propose sont différents ou bien on est toujours un peu...
Là, j'en ai un petit peu marre de recevoir des textes avec des femmes qui ont Alzheimer. Quoi. Ça me fatigue un peu. Quoi. Parce qu'il y a peut-être autre chose à dire sur l'âge que le gâtisme ou Alzheimer. Voilà. Alors ça me tombe des mains.
Ça veut dire que vieillir au théâtre, c'est difficile ?
C'est sûrement beaucoup moins difficile de vieillir au théâtre qu'au cinéma. Au cinéma, c'est même pas la peine d'y penser.
On peut pas vieillir au cinéma.
Plus maintenant, vous citez-moi des rôles de vieilles au cinéma.
Je sais pas.
Mais il y en a pas. Ouais. Comme ça, c'est. Bon, alors, si, une vieille concierge, c'est une journée de tournage. Vous avez pas de courrier, machin. Non, mais il y a pas de rôle.
Ça veut dire que vous tournez plus
au
cinéma ?
Quasiment pas. Il y a pas de rôle. Ou alors, c'est des rôles qui m'intéressent pas.
Mais Frédéric Pommier va écrire.
J'espère. Au boulot.
C'est prévu. Pour Catherine Yégel.
Frédéric, quand on écrit, on pense un peu au comédien ou à la comédienne qu'on imaginerait
Alors moi, je ne suis l'auteur que d'une pièce, ouais. Mais pour cette pièce-là, oui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on colle des visages de comédiens ou de comédiennes sur les personnages. Et moi, assez rapidement, celui de Catherine Yégel est venu se superposer à celui du personnage que j'étais en train d'écrire.
Mais je ne sais pas, moi je ne suis pas dans la tête de Frédéric.
Après, je pense que les auteurs fonctionnent très très différemment, mais je pense qu'il y a plusieurs auteurs qui ont écrit pour vous, Catherine.
Je ne sais pas, je ne crois pas. J'ai beaucoup joué des contemporains, mais qui étaient morts, ou qui venaient de mourir. Sinon, j'ai reçu des textes de Zeller, qui m'a envoyé la mer, mais je ne pense pas qu'il avait écrit pour moi. Sauf que quand je l'ai reçu, j'ai bien vu que c'était une bonne pièce. Voilà, je sais lire.
Et jouer toujours. Et
de quelle façon ? Oui.
Ouais. Merci infiniment, Catherine Yégel.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce 13-14. La séparation, pièce de Claude Simon, c'est au théâtre des Bouffes Parisiens. C'est jusqu'au 4 janvier. Allez-y. Merci infiniment, Frédéric Pommier. Je vous garde un peu jusqu'à la fin de ce 13-14, 13h44 sur Inter. Notre feuilleton. Nous retournons pour la dernière fois à Fécamp, au marché aux poissons tenu depuis 20 ans par Nathalie Lecanu, qui a fait de ce lieu un lieu de rencontre. Depuis quelques années, les clients peuvent s'y asseoir, boire un verre et déguster des produits de la mer. Des amitiés naissent ici.
Salut,
ça va ?
Comment va ?
Ça va, Tim ?
Itaire.
Non, pas des la forme.
Salut, vous avez pas de cochon quand même. Qu'est-ce qu'on prend ? Un chablis, un quoi ? Allez, hop. Nathalie, t'en veux un peu ?
Oui, un petit fou.
Oh, la vie est dure. Hein.
Bonjour, je m'appelle Claude et j'adore venir ici.
On peut avoir des bulots ?
Bonjour, je m'appelle Mario. Je suis le mari avec Claude. T'as vu, quand les personnes qui étaient à côté de nous tout à l'heure sont arrivées, immédiatement, elle nous les a présentées. Bah tiens, ils sont comptables. Si vous avez besoin de comptables, elle le fait sur le ton de la plaisanterie, mais elle présente les gens alors qu'il n'y a aucun lien entre eux et... Et le lien démarre comme ça, et c'est génial.
En plus, le concept des grandes tables en bois, en enfilade, bon, bah, automatiquement, tu te retrouves à côté de personnes que tu connais pas, tu rencontres des gens, c'est un partage. C'est un lieu de rencontre.
Et la pince, génial. Hein. J'ai réussi à la...
C'est vachement bien. Magnifique. C'est merveilleux.
Merveilleux.
Putain, j'ai réussi la pince à oursin, c'est merveilleux.
Ah non, je prends comme ça, c'est comme une cisaille. Hop là, il faut que tu aies la bonne hauteur, comme un
œuf
à la coque.
Ah ouais.
Il y a tout un lien qui s'est fait, une véritable amitié qui s'est créée entre toutes ces personnes.
Je m'appelle Karine et je suis une amie de Nathalie.
Je m'appelle Laure et moi aussi je suis une amie de Nathalie. Le marché aux poissons est un vrai lieu de rencontre. On s'y retrouve beaucoup le week-end, le soir. On appelle ça le marché aux poissons, mais ça pourrait être la belle embuscade. Parce que des moments, bah oui, c'est une embuscade.
C'est la troupe de Fécamp, on s'est retrouvés à Paris. C'était chouette pour le mariage de Mario et Claude. Moi, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés grâce à elle et avec qui j'ai des liens assez forts aujourd'hui.
Mario et Claude, par exemple, c'est des gens, je pense que... S'il n'y avait pas eu le marché aux poissons, on se serait peut-être jamais rencontrés parce que ben, il faut se rencontrer dans un endroit où tu te poses, où tu bois un verre. C'est vrai qu'à Fécamp, il n'y a pas tellement d'endroits non plus qui te laissent cette occasion-là. Maintenant, c'est des vrais amis.
Parce qu'ils ne voient pas ce qu'on fait le matin.
Tu as travaillé aujourd'hui ou tu as fait la star ?
Non, elle a travaillé. C'est vrai.
Déjà, ils me voient le soir, ils croient que je viens toute la journée, mais...
Ah, c'est un lieu de rendez-vous, en fait. C'est un peu le rendez-vous du vendredi soir, du week-end. On se dit rien, on se retrouve là, on sait qu'on est là, on sait qu'on va trouver quelqu'un, et puis ça se passe toujours super bien, quoi. Et Nathalie, elle est fédératrice aussi, elle est... voilà, elle a été là, il y a eu des gens que j'ai rencontrés ici, il y a d'autres que je connaissais d'ailleurs, et ouais, non, c'est vraiment le point de rendez-vous.
Déjà, vous voyez, à cette heure-ci, on est quand même assez nombreux, et puis il fait pas très chaud, et puis tout le monde est là, et puis pour partager un petit verre de vin blanc, et c'est cool. On vient chez Nathalie, on est toujours accueillis, comme elle peut accueillir les autres personnes de l'extérieur, créer un lien, une amitié.
Elle arrive toujours à... Enfin, moi, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés grâce à elle et avec qui j'ai des liens assez forts aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est une de ses qualités et une de ses forces aussi.
Attention, il n'a pas...
feuilleton signé Afécan Mathieu Bonnour. Les épisodes diffusés cette semaine, vous les retrouvez sur l'application Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le vendredi 13h49, la France des cimes et des océans avec Virginie Troussier. Aujourd'hui, Virginie, vous nous emmenez dans un lieu qui vous est cher, l'Alpe du Grand Cerf. La station de l'Isère se demande si elle pourra ouvrir cet hiver.
Située dans les Alpes du Nord, sur la commune de La Morte, à 1370 mètres d'altitude et à une trentaine de kilomètres de Grenoble, la station de l'Alpe du Grand Cerf est un balcon paisible sur la montagne. Alors oui, Jérôme, je vous avoue, j'ai un attachement tout particulier à cette station. C'est là que j'ai appris à tracer mes premiers virages à l'âge de 3 ans et j'y suis revenue avec ma famille, hiver après hiver, tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Créée en 1938, elle était vantée dans une publicité de l'époque comme la plus belle station du Dauphiné, couverte d'une neige toujours parfaite de novembre à avril. Dans les années 90, je me souviens, les affiches promettaient du ski, rien que du ski, une station sans chichi. Mais l'histoire a basculé. La neige, on le sait, ne tombe plus abondamment chaque hiver. À l'automne dernier, les élus ont voté la fin de la station. Trop de charges, trop de déficits. Une cagnotte lancée par les habitants et les amoureux du lieu a toutefois permis de réunir 200 000 euros et d'offrir un an de sursis à l'Alpe du Grand Cerf. Mais fin septembre, la station devait cette fois fermer pour de bon.
Un coup dur pour le village.
Et oui, il n'y a que 139 habitants à l'année, mais la station fait vivre près de 200 personnes. Ces petites stations deviennent aussi un lieu d'attachement, accessible, où l'on vit pleinement. La montagne, elles sont une ambiance, un endroit où on a plaisir à retrouver les mêmes visages. À l'Alpe du Grand Cerf, on skie sur de la neige naturelle, il y a peu de canons. C'est une station authentique. Et alors qu'on n'y croyait plus, voilà qu'un souffle d'espoir se lève. Sata Group, l'exploitant des grandes stations autour, comme l'Alpe d'Huez et les Deux Alpes, pourrait soutenir le domaine. Le 13 novembre, tout un village attendra cette décision, un nouvel hiver ou un adieu au ski alpin.
Ce qui nous rappelle, Virginie, que le changement climatique menace toutes les stations de moyenne montagne.
Exactement, Jérôme. Ces dernières décennies, 180 domaines skiables ont disparu en France. Dans les Alpes, la température moyenne a augmenté de 2 degrés et la limite pluie-neige s'est élevée de 200 mètres. Dans 20 ans, les hivers seront plus courts et le manteau neigeux aura perdu 40% de son épaisseur. En montagne, on ne parle pas seulement de nostalgie, mais de solastalgie, un terme philosophique qui désigne un sentiment de détresse face aux transformations subies par l'environnement. La solastalgie dit avant tout la force de l'attachement à un lieu.
Qu'imagine-t-on pour la suite ?
Alors l'enjeu n'est plus seulement de sauver la station, mais de la réinventer. Le collectif citoyen La Morte Vivante propose une station habitée toute l'année. Activité estivale, pastoralisme, autonomie énergétique, avec l'ambition de créer un site pilote de résilience climatique. On évoque aussi un aménagement du bas du domaine pour que les pistes démarrent plus haut, là où la neige est encore bien présente. Dans notre monde, il existe une angoisse de permanence, cette idée que tout devrait briller éternellement. Qu'il s'agisse de lieux, d'objets ou de personnes, on tente de les figer dans un présent immobile. Mais rien ne dure et tout change. Les lieux aussi se transforment avec le temps. Les événements qu'ils traversent, les façons dont ils sont habités, les marquent profondément. N'oublions pas que ces territoires d'altitude ont toujours su s'adapter. Une autre façon d'habiter la montagne est en train d'émerger pour que la morte, fidèle à sa beauté, reste bien vivante.
Virginie Troussier, en direct de Quimper, avec les moyens techniques d'ici Breizh-Izel, de C'est la France à C'est une chanson. C'est la journaliste et romancière Vanessa Schneider que vous recevez aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Vanessa Schneider qui vient de publier un très beau texte, La peau dure, un livre enquête sur son père décédé il y a 3 ans. Et c'est de Bob Marley qu'elle a souhaité parler, un chanteur qui a occupé une place très importante dans son enfance.
Il était présent chez nous à travers les disques, à travers même des photos. Ouais, c'était une icône familiale de mes parents, en particulier de ma mère. Sa propre mère venait d'Haïti. Donc ma mère n'a pas connu Haïti. Moi, évidemment, je n'ai pas connu Haïti non plus. Mais je pense qu'il y avait cette espèce d'impensé familial autour des Caraïbes, du fait d'être métisse, descendant d'esclaves et tout ça. Il y avait tout cet imaginaire qui nous parlait chez Bob Marley.
La Jamaïque et Haïti étant effectivement des îles, toutes les deux peuplées de descendants d'esclaves.
Exactement. Donc c'est cet imaginaire-là. Après, le reggae à l'époque, c'était une musique qui était assez révolutionnaire. Un mélange de musique très entraînante, très dansante. Moi, ma mère adorait danser, on a toujours dansé. Moi, je danse encore seule chez moi, presque tous les jours. Et en même temps, avec des paroles politiques fortes. Et qui correspondait à ce qui se passait à l'époque dans ma famille, puisque l'époque où on découvre Bob Marley, c'était une époque où mes parents étaient très engagés politiquement, où mon père appartenait à une organisation maoïste assez dure, et donc les paroles de Bob Marley, elles résonnaient comme ça, c'était des paroles de libération des peuples, de solidarité, quelque chose qui réunissait un peu toutes ces luttes qu'on appelait à l'époque les luttes tiers-mondistes. Heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right.
Ce tube, Frédéric, faut-il que je le précise, c'est donc Get Up Stand Up.
Vous l'avez très bien précisé. Une chanson qu'adorait chanter la mère de Vanessa Schneider.
C'était une chanson que j'ai beaucoup entendue et je sentais que c'était une chanson un peu de combat, mais en même temps joyeuse parce qu'elle est très très rythmée. Et curieusement, quand je suis devenue mère à mon tour, je me suis surpris à la chanter à mes enfants. En particulier quand ils ne voulaient pas sortir du bain, donc c'était voilà. Et on a chanté Get Up Stand Up et c'est une chanson qu'ils ont toujours entendue. C'est à la fois la gaieté, le dynamisme, et puis en même temps un petit message politique qui est assez basique, hein, qui n'est pas un message politique très compliqué, mais c'est en effet, il ne faut pas se laisser faire, il faut avancer, il faut se battre pour ce qu'on croit.
Et rester debout quoi qu'il arrive.
Essayer de rester debout quoi qu'il arrive, voilà.
Vous tombez beaucoup ?
Je tombe et je me relève assez vite. Donc c'est une façon de rester debout, oui. J'ai la peau dure. Je tombe et ça m'embête pas de tomber en fait. Quoi, si, ça m'embête sur le moment, évidemment, c'est pas agréable, mais il y a des moments où on est désabusé, où on voit tout en noir, où on perd espoir, où on est happé par un chagrin, par quelque chose qui nous contrarie beaucoup, par une injustice. Donc ça peut me mener dans des tréfonds de mélancolie, mais dont j'arrive à ressortir très très vite.
Très très vite, ça veut dire quoi ?
Ah, dans les heures qui suivent, c'est pour ça que je dis très très vite. Mais des grands moments d'abattement, oui, que j'arrive maintenant à identifier, donc je sais que je vais en sortir.
Quand vous entendez cette chanson aujourd'hui de Bob Marley, est-ce que surgissent à la fois les lieux où vous avez passé votre enfance, le visage de votre mère, le visage de votre père ?
Oui, alors c'est plus associé à ma mère, cette chanson, parce que ma mère est métisse. À l'époque, dans les années 70, elle avait cette boule afro, un peu à la Angela Davis. Donc oui, ma mère, elle collait parfaitement à cet univers. Mais mon père aussi, quelque part, parce que c'était l'époque où il portait les cheveux longs, où on passait des vacances en communauté. Tous leurs amis étaient comme ça, un peu hippies et tout. Donc Bob Marley, pour moi, c'est vraiment ce moment des années 70, avant la bascule des années 80, où ma famille est devenue beaucoup plus policée et où quelque part on est rentré dans le rang. Mais on a continué à l'écouter, hein, toujours on a continué à l'écouter.
Bob Marley, Get Up, Stand Up. C'était donc, Frédéric, le choix de Vanessa Schneider.
Vanessa Schneider, dont le nouveau livre, La peau dure, vient de paraître chez Flammarion.
Merci Frédéric et à lundi. Get Up pour tous ceux qui ont contribué à ce 13-14 cette semaine. À la rédaction en chef, Cécilia Arbona, Lionel Thompson et Sébastien Sabiron, assistés de Sylvain Lesage, Rachid Zourdani, Nicolas Sabat et Joseph Ascal. À la technique, Philippe Duclos, Fabrice Desmaz et Achille Aknin. Notre attaché de production, Camille Poux-Jalaguier. Merci également à nos standardistes.